Nous sommes toujours dans l'Apocalypse et on est au chapitre 14. On a vu la semaine passée le chapitre 12 et le chapitre 13. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses et c'était un peu condensé, surtout à la fin du chapitre 13. Mais le chapitre 13, verset 9, que si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alors, vous avez des oreilles, vous avez dû entendre, et pas seulement, vous comprenez que entendre ici, c'est aussi qu'ils comprennent. Hein? Et il est même dit à la fin du chapitre, au verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Alors, si vous avez de l'intelligence, vous avez calculé, ou alors c'est un piège. Pour nous montrer et nous amener avec humilité à reconnaître qu'on n'a pas d'intelligence ou pas suffisamment d'intelligence et qui est comme Dieu, hein, et que notre intelligence est bien limitée. En tout cas, il y a eu toutes sortes de calculs qui ont été faits au cours de l'histoire et personne n'a eu suffisamment d'intelligence pour l'instant pour arriver avec un calcul satisfaisant. Alors, on est ce soir avec le chapitre 14 et il y a ici comme quelque chose de nouveau. Et c'est comme si on est par vague, hein, un petit peu avec l'Apocalypse. On a des temps un petit peu de catastrophe, de fléau, de grandes difficultés. Puis après, on a une bouffée d'oxygène, on se retrouve au ciel, on voit l'agneau, la gloire, et puis de belles choses, la magnificence, le trône. Et puis après, on replonge dans quelques catastrophes, et après, en apnée, puis après on remonte, et puis on a un peu de réconfort. Et après, en fait, avoir parlé des sceaux, après avoir parlé des trompettes, et puis de cette bête qui monte de la terre, et puis de cette bête qui monte de la mer, eh bien, c'est comme si on remonte au ciel quelque part, et on se retrouve dans un autre contexte, moins terrifiant, après avoir parlé des bêtes. Et en particulier de cette bête qui ressemble à un agneau, mais qui n'en est pas un, on arrive ici avec le véritable agneau, chapitre 14, verset 1er. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc on revient cette fois-ci dans la présence de l'agneau, et on est ici. Sur la montagne de Sion. Alors, beaucoup se sont posé la question en disant, bon, est-ce qu'on est au ciel ou est-ce qu'on est sur la terre? Est-ce qu'on se retrouve dans un contexte céleste où on est ici, ben, on est l'agneau, la dernière fois dont il en était question, c'était au ciel, c'était à côté du trône, ou alors ici, on est sur la terre et Sion, évidemment, c'est cette colline aux alentours de Jérusalem et dont il est souvent question et référence dans les chapitres prophétiques. Alors ici, on a aussi une deuxième question, c'est ces 144 000. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des 144 000, non? On a déjà parlé des 144 000, c'était au chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Alors, la question, c'est est-ce que c'est les mêmes 144 000 ou pas? Alors, évidemment, tout dépend de l'interprétation que nous avons, mais si nous considérons qu'au chapitre 7, les 144 000 sont plus symboliques et représentent eh bien, l'ensemble du peuple de Dieu, eh bien, ici, ces 144 000 pourraient être les mêmes. D'autres vont faire plutôt une affaire de parallélisme, si je peux dire les choses ainsi, en disant, vous vous souvenez qu'il y avait 24 vieillards, ce qui représente 12 et 12. Alors, est-ce que de la même manière, il pourrait y avoir 144 000 et 144 000 pour avoir un 144 000 de l'Ancien Testament, puisqu'il était question des tribus dans les premiers 144 000, même si c'était de nouvelles tribus, on avait vu que ce n'était pas dans l'ordre habituel des tribus. Et ici, un 144 000 qui est plus christologique, qui est plus attaché à l'agneau et qui représente davantage eh bien, les fidèles, les disciples de Christ, ceux qui ont le nom de l'agneau. La plupart des commentateurs, la plupart des théologiens vont plutôt assimiler les deux en disant que les premiers 144 000 et les seconds représentent les mêmes, à savoir, eh bien, l'ensemble de ceux qui ont le nom de Jésus. Au chapitre 7, les 144 000 avaient plus une connotation vétérotestamentaire, c'est-à-dire on allait plus dans l'Ancien Testament avec les tribus, mais néanmoins, ça ne représentait pas le peuple d'Israël seulement, ça représentait un nouveau genre de peuple d'Israël, puisque les noms n'étaient pas dans le même ordre, et donc qui correspondrait au peuple universel de Dieu. Ici, c'est plus serré dans le sens qu'il s'agit davantage de ceux qui suivent Jésus que de ces anciens qui faisaient partie du peuple de Dieu avant l'arrivée du Messie, si je peux dire les choses ainsi. Ici, le nom de l'agneau est inscrit sur, et le nom de son père sont inscrits sur leur front. Et évidemment, le fait que ce soit inscrit sur leur front fait une différence avec ceux du chapitre précédent, chapitre 13, où il était question de ceux qui avaient le nom de la bête. Hein, verset 16, il est dit, donc chapitre 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne. Donc il y a une marque de la bête pour ceux qui sont dans le chapitre 13, sur leur front, sur la main ou sur le front. Et ici, au chapitre 14, il y a le nom de Jésus et de son Père qui est inscrit sur leur front. Donc il y a comme deux catégories ici, deux personnes qui les distinguent vraiment. Alors maintenant, je reviens à la première question que j'avais lancée tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de l'Église sur la terre ou de l'Église dans les lieux célestes? Ben, c'est les deux à la fois, parce que d'ores et déjà, même si nous sommes de cette Église terrestre, hein, on est bien sur la terre, on est toujours sur la terre, on a toujours les pieds sur terre, même si on lit l'Apocalypse, ben, néanmoins, il y a déjà une connexion, si on peut dire les choses ainsi, avec le ciel. Regardez dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, par exemple, jusqu'à quelques versets comme ça. Éphésiens chapitre 2, verset 6, où il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, par la résurrection, nous avons déjà une place dans les lieux célestes. On retrouve un peu ce même genre de pensée dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux 12, 22, il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Et il est question au chapitre 14, eh bien de cette montagne de Sion. Et ici, pour l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est une Jérusalem céleste. Il ne dit pas, vous allez un jour vous approcher. Il dit, vous vous êtes approchés. Donc, même si l'Église est toujours terrestre, il y a une dimension céleste qui est là. Et quelque part, le chapitre 14 a cette ambiguïté où c'est à la fois eh bien, une Jérusalem céleste et un Sion céleste, donc représentant en fait l'Église dans le ciel, mais c'est à la fois aussi cette Église terrestre qui passe au travers eh bien, de la persécution, qui passe au travers de l'épreuve, qui passe au travers des fléaux et de toutes ces choses dont il était question auparavant, mais qui en ressort victorieuse. Parce que 144 000, on avait noté que ça représentait eh bien, comme une certaine perfection. Eh bien, on s'aperçoit que les 144 000 du chapitre 7, malgré tous les sauts et malgré tous les trompettes, il en reste toujours 144 000. Si vous suivez un petit peu la logique ici, il s'en est pas perdu. Et c'est quelque part un signe encourageant. On ne dit pas, bon, ils étaient 144 000 au départ et il en reste plus que 200 à la fin, ou il en reste plus que 1 000 à la fin. Et c'est pour montrer que malgré tout, évidemment, il y en a qui sont morts, il y a des persécutés. Pour les premiers lecteurs de l'épître de l'Apocalypse, c'est sûr qu'il y a des pertes, on va dire, dans l'Église. Mais le fait que les mêmes chiffres soient là montre que, somme toute, d'une manière globale, l'Église n'a pas perdu. L'Église n'a pas dépéri, mais elle est toujours la même. Elle a été comme préservée, protégée, malgré la menace, malgré la bête qui est montée pour la vaincre, hein, puisque c'est le mot qui est utilisé ici, du bon chapitre 13. Eh bien, malgré cela, elle reste toujours, eh bien, le même nombre, et donc elle a été protégée, gardée, sauvegardée. C'est cette même église ici qui est victorieuse. Alors, si on continue, donc, leur nom est inscrit sur leur front, verset 2, j'entends, donc 14, 2, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Alors, c'est un petit peu paradoxal quelque part, parce que la harpe, ça fait, c'est doux, c'est mélodieux, mais là, c'est de la harpe qui passe dans un système d'amplification, je ne sais pas. En tout cas, ça fait du bruit comme le bruit d'un grand tonnerre et de grosses eaux. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et certains se sont posé la question en disant, bon, ce cantique nouveau, il est nouveau depuis quand? Certains vont dire, mais ce cantique nouveau a déjà été entamé et commencé à la résurrection de Jésus. Il est question d'une nouvelle alliance, il est question de nouveaux commandements, et le nouveau est déjà arrivé par la résurrection, une nouvelle naissance, et le cantique nouveau est celui du ressuscité. Et de ce que célébrons la victoire de Jésus par sa mort et sa résurrection. Et quand on considère que ce cantique nouveau est là depuis, eh bien, la résurrection, alors ça va nous placer au niveau de la chronologie. Ça va nous amener à considérer que ici, on n'est pas forcément dans une histoire qui va se dérouler bien, bien après, mais qui a déjà commencé. Et que ce cantique nouveau qui est chanté, eh bien, par cette église qui est dans la présence de l'agneau, eh bien, a déjà commencé à être entonné, eh bien, depuis la naissance de l'église et depuis le début de cette période de l'église. Donc, ça considère, ce ne serait pas donc un cantique qui va être nouveau, mais qu'il est déjà depuis la résurrection. Bon. Parce que sinon, enfin, on va y revenir par rapport à l'évangile, sinon, ça devient un peu compliqué si on considère qu'il y a des choses maintenant, mais qu'il y a d'autres choses nouvelles qui doivent arriver. Les choses nouvelles qui avaient été annoncées par les prophètes se sont accomplies, et on est vraiment dans le tout est accompli de Jésus à la croix. Alors, ce cantique nouveau est chanté, mais néanmoins, il est dit au verset 4, au verset 3, la deuxième partie du verset 3, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et comprenez que les 144 000 ici, donc ça représente le peuple de Dieu ou l'Église de Dieu, plus précisément dans le chapitre 14, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Eh bien, ce cantique reste mystérieux à ceux qui sont en dehors de l'Église, mais ceux qui ont été rachetés ou nés de nouveau, si on veut reprendre d'autres expressions, eh bien ceux, mais pour rester dans l'Apocalypse, c'est ceux qui ont été rachetés de la terre, eh bien ceux-là sont capables, je reprends l'expression exacte, sont capables d'apprendre le cantique. Verset 4, il est dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Alors là encore, il faut faire attention à comment on comprend les détails de cette phrase, parce que on pourrait se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Quand il est dit, par exemple, qu'ils sont vierges, on va dire, bon, les 144 000. Et notez bien qu'ils ne sont pas allés avec des femmes. Donc, ce sont des hommes. Est-ce que les 144 000 sont 144 000 hommes Non, on comprend ici que on peut pas rentrer dans un sens littéral par rapport à ce vocabulaire ici, mais qu'il y a quelque chose de symbolique. Et il est question plus ici d'un sens symbolique que d'un sens littéral. Et le symbole ici, eh bien, nous parle de pureté. Ils ne se sont pas donc souillés, mais ce sont ceux qui sont restés fidèles, qui suivent l'agneau, qui sont avec l'agneau et qui sont restés fidèles, qui ne se sont pas souillés avec d'autres avec d'autres femmes, en l'occurrence ici, qui ne sont pas souillés, mais qui sont gardés purs. Et non seulement ils sont purs, mais il est même dit ils sont irréprochables. Et quand il est question du mensonge, quand il est dit il ne s'est point trouvé de mensonge en eux, bien le mensonge ici fait évidemment référence au chapitre 13, à savoir la bête. Et le mensonge ici, c'est adorer la bête. Et cette bête qui se faisait passer pour l'agneau, hein, qui avait l'apparence d'un agneau. Le mensonge ici, c'est celui de la bête, mais eux, ils ne se sont pas fait avoir par ce mensonge-là. On sait que le diable, eh bien, c'est le menteur par excellence, c'est le père du mensonge, hein, Jésus va utiliser cette expression. Et donc ici, c'est 144 000, donc représente cette église qui s'est gardée pure, et voire irréprochable. Et on comprend que si elle est irréprochable, c'est pas parce que jamais personne n'a jamais rien fait de mauvais, mais c'est parce qu'ils sont gardés près de l'agneau et qu'ils sont justifiés. Mais ça, c'est un autre discours, hein. Il faut aller chercher ça avec Paul ici. C'est pas explicité, mais nous, nous le savons, eh bien que c'est par le sang de Jésus, si je reprends l'expression parce qu'il est question de l'agneau ici, eh bien qu'ils sont irréprochables, parce qu'ils sont irréprochables, c'est-à-dire déclarés justes, comprenez, justifiés, tout ça c'est le même vocabulaire, ils sont déclarés justes, ils sont justifiés par ce que l'agneau a accompli, et parce que l'agneau les déclare justes, ils sont irréprochables. Parce que qui pourra dire à l'agneau que ce qu'il dit n'est pas vrai quand il dit qu'ils sont justes? Et s'ils sont justes, ce n'est pas par rapport à ce que eux ont accompli, mais par rapport à ce que l'agneau a accompli pour eux. Et on a la même expression, enfin, le même symbole qui est utilisé dans l'Apocalypse, quand il est question de ceux qui ont des robes blanches, car elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Techniquement parlant, lavées dans du sang, ça ne fait pas vraiment des robes blanches, hein. Je ne sais pas si mesdames, elles redoutent plutôt les taches de sang, hein, parce que c'est difficile à laver. Mais ici, le paradoxe, c'est que dans le sang, ça ressort blanc. Et on comprend qu'il y a un miracle qui prend place ici, et que si leurs robes sont blanches, ce n'est pas parce qu'ils les ont lavées d'eux-mêmes, mais c'est parce qu'il y a eu un miracle au travers du sang de l'agneau. Alors, je reviens ici à notre chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle vision qui prend place. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Certains se sont plantés, si on peut dire les choses ainsi. Certains ont trouvé des problèmes avec cet évangile éternel, en disant, est-ce que cet évangile éternel, c'est le même que l'évangile de la grâce? Et certains dispensationalistes vont dire, non, non, il y a différentes époques. L'évangile de la grâce, c'est pour notre époque actuelle, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Mais ici, on est dans un autre temps, l'Église a été enlevée, hein, dépendamment de comment on se situe. Ils vont dire ici, l'Église est enlevée, et c'est un autre évangile qui est annoncé, à savoir un évangile éternel qui est annoncé à tout le monde. Alors, c'est une interprétation à laquelle je n'adhère pas, mais sachez-le parce que malheureusement elle circule. Mais alors, c'est quoi cet évangile éternel? Parce que c'est ici quelque chose qui est assez propre à l'Apocalypse. Hein, dans les autres écrits du Nouveau Testament, on ne retrouve pas cette expression-là. Bon, peut-être déjà que ce qui vient nous mêler, c'est que trop souvent, quand on voit un mot, on a tendance à rester enfermé par le sens du mot. Je veux dire par là, par exemple, on a le mot baptême. Je prends un autre exemple pour être plus clair. Souvent, quand on a le mot baptême, à chaque fois qu'il y a le mot baptême dans la Bible, on a tendance à pas connecter. Soit on connecte ça au baptême d'eau, soit on connecte ça au baptême du Saint-Esprit. Non? Mais est-ce que ça se pourrait qu'à certains endroits, on utilise le mot baptême et c'est ni l'un ni l'autre? Quand Jésus parle du baptême dans la mort, dans sa mort, il y a un baptême, hein? Baptême dans la mort de Christ. Ou quand il est question du baptême dans la nuée. Alors, nous, parce qu'on a le mot baptême, baptême égale baptême. Non, baptême veut dire immersion. Et quand il est question de la doctrine des baptêmes, dans Hébreu, de quel baptême s'agit-il derrière tout ça? Et donc, on peut avoir de la confusion parce qu'on a un mot et ce mot-là est tellement. Il y a une valeur sentimentale avec ce mot-là veut dire tellement pour nous que quand on le voit, ben, on est bloqué, figé avec ce mot-là. Et là, c'est la même chose. Quand il est question ici d'un évangile éternel, on pourrait comprendre que évangile ici, c'est pas forcément. Comment dire, le mot évangile, c'est juste un mot en grec. Et ça veut dire simplement bonne nouvelle. Mais est-ce que l'évangile ici veut dire la même chose que l'évangile de la grâce du salut en Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une bonne nouvelle, sachant que le mot évangile était utilisé aussi dans des contextes militaires et qu'il représentait quelque part l'annonce de la victoire? Hein, on se souvient du premier marathonien qui arrive à annoncer au roi grec qu'il y a eu la victoire, il a couru son marathon, et pour annoncer la victoire, il dit bonne nouvelle, à savoir évangile, évangile, euangelion, euangelion. Et donc, l'évangile, c'est l'annonce de la victoire. Dans ce sens-là, on pourrait lire simplement ici que l'évangile éternel, eh bien, c'est cette annonce d'une victoire éternelle. Et que ici, l'ange, eh bien, en question, annonce la victoire, et cette victoire est une bonne nouvelle. Sachant évidemment que ce que Jésus a accompli à la croix est une bonne nouvelle, est une victoire, et tout le concept est là. Mais il ne s'agit pas de comparer l'un par rapport à l'autre et de dire ici, ce n'est pas le même évangile que là, à tel endroit, parce qu'il y a le même mot qui est là, mais rester plus dans le sens. Dans ce que ça représente, plutôt que d'être prisonnier du mot. Donc ici, ce qui est annoncé, c'est une bonne nouvelle de victoire, et c'est une victoire éternelle qui est annoncée aux habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la mer, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin et de la fureur de sa débauche. Alors, c'est qui cette Babylone la grande? Ou c'est quoi cette Babylone la grande qui est tombée? Babylone la grande, il en est question dans Daniel chapitre 4, verset 27. Daniel chapitre 4, verset 27. Et il est dit ici, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu. Non, je ne sais pas où il faut là. Comment? Ah, je suis au chapitre 3. Chapitre 4, verset 27. C'est pour ça que je n'étais pas à la bonne page. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant justice et à tes iniquités en usant de la compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Bon, décidément. C'est plutôt verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? Et donc le roi de Babylone déjà utilisait comme Donc, on est au chapitre 4, verset 30. On parle de Babylone la Grande. Donc, cette Babylone fait référence à un lieu de captivité, évidemment, par lequel le peuple est passé. Et puis, Daniel nous rapporte cette histoire et ce temps-là. Mais pour les chrétiens du premier siècle, pour les premiers lecteurs de l'Apocalypse et pour Jean lui-même qui l'écrit, la Babylone, pour eux, sans aucun doute, fait référence à Rome. Et c'est la ville de Rome. Hein, on a parlé des sept collines la dernière fois, puis on aura l'occasion de confirmer que Babylone égale Rome, par exemple, si on tient compte des chapitres 16, 17 et 18, où il est question à nouveau de Babylone. Mais Babylone, ce n'est pas simplement Rome en disant c'est Rome et ce n'est que Rome. Babylone, c'est aussi l'image, le symbole, eh bien, de la bête qui monte de la mer, à savoir, eh bien, de ce système. Babylone, ce n'est pas une ville qu'on met sur une carte, mais Babylone, c'est aussi un système politique. De la même manière que l'Antéchrist, c'est une personne en particulier, mais c'est aussi un système, une pensée à laquelle on pourrait rattacher plusieurs êtres historiques, plusieurs personnages historiques qui étaient dans cette même pensée. De la même manière, Babylone, ce n'est pas simplement cette ville-là, Rome à telle époque, mais c'est aussi donc tout ce système représenté par cette bête qui monte de la mer, système politique, système social, système idéologique, qui vient donc contre Christ et qui est donc par définition le système qui est opposé à l'Église et à ceux qui sont à l'agneau. Et il n'y a rien entre les deux, c'est soit on a la marque de la bête sur le front, ou soit on a le nom de Jésus, de l'agneau et de son Père. Évidemment, Babylone ramène à une vieille histoire, c'est Babel. Hein, Babylone, Babel, évidemment, ça a une connotation non seulement historique, mais aussi théologique, parce que Babel, si vous vous souvenez de l'histoire de Babel, c'est ces hommes qui ont voulu reconstruire une ville qui s'élève quelque part contre Dieu, qui voulait monter à la hauteur de Dieu. Et donc c'est cette arrogance et cette prétention de vouloir construire un système politique, et là c'est toute une ville, c'est tout un pour venir quelque part défier Dieu. Et cette mentalité de Babel se retrouve dans cette Babylone apocalyptique. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que au niveau de la chronologie de l'Apocalypse, ça fonctionne pas forcément d'une manière claire et précise comme on a l'habitude, en disant bon, c'est déjà ça, déjà les sceaux, les sept sceaux qui s'ouvrent. Après, il y a les sept trompettes, et puis après, il se passe tel et tel événement, et après, on arrive aux sept coupes. Et là, par exemple, en ce qui concerne Babylone, il est dit qu'elle est tombée, et donc c'est sa ruine, hein, c'est sa chute et c'est sa ruine qui est là au chapitre 14. Mais pourtant, quand on ira au chapitre 16 et au verset 19, il est question encore de Babylone et que là, Babylone est pas tombée au chapitre 16. Donc on comprend qu'il y a des choses qui se disent dans certains chapitres, mais qui ne sont pas forcément précédents à ce qui va être dit plus tard. Donc ça nous montre que les visions de l'Apocalypse, il faut être prudent lorsqu'on fait des chronologies, que Jean a vu quelque chose ici concernant la chute de Babylone, mais que plus tard, quand il sera dans une autre vision, ce n'est pas parce que cette vision est racontée après, pas parce que le chapitre 16 arrive après le chapitre 14 dans l'ordre du livre, que les événements du chapitre 16 se déroulent forcément après les événements du chapitre 14. Et donc, qu'il y a donc une chronologie ici qui n'est pas forcément celle du livre. Et qu'il y a même, on aura l'occasion d'en parler peut-être plus la prochaine fois, il y a même des choses qui vont se superposer. Par exemple, il est question de sept trompettes dans les chapitres précédents. Et là, à partir du chapitre 16, il sera question des sept coupes. Et même, on pourra regarder la prochaine fois comment on peut comparer les trompettes et les coupes et voir que finalement, il y a comme un parallèle ou un synonyme en disant ben, que les trompettes et les coupes font référence aux mêmes événements. C'est pas, il va y avoir sept trompettes et après, il va y avoir sept coupes, mais que les sept trompettes et les sept coupes font référence aux sept mêmes événements. et qu'il n'y a pas ici donc une chronologie qui serait dans l'ordre du livre en disant, bon, ben, on a raconté les sept trompettes et ensuite il y aura sept coupes, puisque la septième trompette, c'est la fin de tout, comme le septième sceau, c'était la fin de tout. Si la septième trompette, c'est la fin de toute l'histoire, comment est-ce qu'il pourrait y avoir après la fin de tout à nouveau sept coupes? Donc on comprend que ce sont comme des tableaux, hein? Vous vous souvenez que l'Apocalypse, c'est des visions que Jean a, c'est des tableaux qu'il a, mais que ces tableaux qu'il voit, eh bien, il les voit dans un certain ordre, c'est l'ordre dans lequel il reçoit ces tableaux, mais que les tableaux qu'il voit ne représentent pas forcément des choses qui se déroulent dans l'ordre dans lequel il les voit. Est-ce que vous me suivez? Un peu comme si vous visitez un musée et que dans le musée, vous avez différents tableaux, eh bien, vous pouvez voir les tableaux d'une certaine perspective ou d'un certain hauteur, puis ça va être rangé dans un certain ordre, puis vous allez dans une autre salle, et ce n'est pas parce que vous allez dans la salle d'à côté puis que les tableaux se suivent que forcément, ils ont été faits après les tableaux qui étaient dans l'autre salle, mais qu'il peut y avoir au niveau des dates, au niveau des lieux, au niveau de l'histoire, eh bien, vous pouvez les voir dans un ordre précis, mais ce que les tableaux représentent ne sont pas forcément dans le même ordre que dans lequel les tableaux sont rangés. Vous me suivez? Bon, c'est ça des fois qui peut amener certaines confusions si on veut à tout prix faire correspondre l'Apocalypse à un ordre chronologique. Parce que, en l'occurrence, ne serait-ce qu'avec cet exemple-là, au chapitre 14, Babylone est tombée, mais au chapitre 16, elle est toujours là. Donc, on voit que chapitre 14 nous parle d'une chute et que Babylone va effectivement tomber, mais que le chapitre 16, c'est comme s'il y avait un flashback, un retour en arrière avant, eh bien, cette chute de Babylone. Alors, on continue. On était à quel verset là? On était au verset 9 maintenant. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il reçoit hein, une marque sur son front ou sur sa main. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Certains ont comme traduction, il prend. Parce qu'il y en a qui disent, mais est-ce que... S'il reçoit, là, il reçoit. Certains vont avoir prendre, d'autres vont avoir recevoir, et c'est le genre de choses qu'il faut faire attention parce que certains chrétiens, des fois, ont peur d'avoir la marque de la bête, en disant, et si j'avais la marque de la bête sans le savoir? C'est moi vous dire que ce genre de choses, vous le savez. Et que c'est un petit peu comme ceux qui ont peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses que l'on fait d'une manière inconsciente ou inconsidérée, et de la même manière, avoir la marque de la bête, c'est pas se retrouver avec un signe par hasard sur son front ou sur sa main, et se retrouver ou avec une puce qu'on n'aurait pas voulu qui nous a sauté dessus et qui nous gratte le dos. Mais c'est pas simplement ça, en disant, est-ce que j'aurais, sans le vouloir, récupéré la marque de la bête? La marque de la bête, c'est pas quelque chose que l'on récupère sans le vouloir. C'est une adhésion, c'est une adhérence, hein. On adhère à avoir la marque de la bête, c'est se prosterner devant la bête. Et on ne se prosterne pas devant la bête par erreur, on ne se prosterne pas devant la bête par hasard, on se prosterne devant la bête par un acte volontaire, significatif, qui est un reniement à la foi en Jésus. Et c'est une prise de position qui n'est pas fortuite ou sans le vouloir, mais c'est quelque chose de volontaire. Et donc, on ne peut pas se retrouver avec la marque de la bête sans le vouloir. Si quelqu'un dit, mais si c'est mon téléphone, la marque de la bête, ou si c'est ma carte de crédit, ou si c'est ça, puis je me retrouve avec la... Non, non, la marque de la bête, c'est adorer la bête. Quelqu'un va dire, mais je l'aime bien, mon téléphone. Non, non, c'est pas de ça dont il s'agit ici. Mais la marque de la bête, c'est vraiment adhérer au système. Hein. La bête, c'est un système politique, un système de pensée, un système idéologique, et c'est pas et un système qui s'oppose, qui est incompatible avec la foi en Christ. On ne peut pas en même temps être chrétien, adorer Christ et confesser son nom, et en même temps avoir, par je ne sais quel moyen, la marque de la bête. parce que ce n'est pas compatible. C'est l'un ou l'autre. Il y a ceux qui ont la marque de la bête sur le front et ceux qui ont le nom de l'agneau et de son père sur le front. Donc, j'arrive au verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et je sais que théologiquement parlant, la persévérance des saints est quelque chose de très conceptuel, mais ici, il s'agit simplement de ceux qui persévèrent au travers de l'épreuve. Hein, on est toujours dans un contexte d'épreuve, d'une bête qui veut anéantir l'Église, qui veut anéantir les chrétiens, et la persévérance des saints, eh bien, c'est ceux qui restent fidèles, c'est ceux qui persévèrent, et c'est ceux, eh bien, qui gardent, un, les commandements de Dieu, et deux, la foi en Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu, on pourrait dire que c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, c'est la loi, et qui gardent la foi en Jésus, eh bien, c'est le Nouveau Testament, c'est la grâce. Donc, on voit qu'il y a toujours cet ancrage, eh bien, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un reniement de l'Ancien Testament, les commandements de Dieu sont toujours vrais, Dieu n'a pas changé, mais c'est les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Mais le verbe ici se distribue sur les deux. Hein? Comprenez, c'est comme si on pourrait répéter le verbe qui garde les commandes de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et qui garde la foi de Jésus. Donc la persévérance des saints, c'est garder les commandements, ou les commandements, c'est aussi synonyme de la parole hein, dans les psaumes, garder les commandements, garder la parole, mais garder aussi la foi. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et c'est quelque chose qui définit ce qui s'appelle ici la persévérance des saints. Parce que dans le concept théologique et peut-être calviniste aussi, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là ce soir, mais on aurait tendance à croire que la persévérance des saints, c'est Dieu qui garde. Mais ici, c'est Dieu qui nous garde et nous protège. Et c'est vrai dans le contexte qu'ici, c'est Dieu qui veille, qui garde, qui protège cette Église qui est persécutée et qui finalement est vainqueur et passe au travers de tout cela. Mais c'est aussi les saints qui persévèrent. Donc, il y a une action personnelle, ils persévèrent, il y a un effort et ils gardent. Et garder ici, c'est un verbe actif, ils gardent la foi. Ce n'est pas simplement Dieu qui garde leur foi en eux, mais c'est eux aussi qui gardent la foi et qui persévèrent malgré la persécution. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent. Et là encore, ça paraît toujours bizarre quand on lit l'Apocalypse, mais il y a le mot heureux. L'Apocalypse parle de bonheur et dit heureux. Nous, on a tendance à voir dans l'Apocalypse malheur, malheur, malheur et pleurs et gémissements et toutes sortes. Mais ici, il y a bien heureux et il est dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux les morts, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et évidemment, on est ici dans un contexte où les chrétiens sont persécutés. Les premiers à lire ça, on brûle les chrétiens, ils sont dans l'arène avec les lions, ils sont persécutés à mort. Et l'apôtre Jean amène au travers de l'Apocalypse un baume sur leur cœur, un réconfort, une bonne nouvelle, en disant heureux ceux qui meurent. Il dit pas, ah, c'est triste, ils sont morts, persécutés, ah, c'est triste, ils ont été brûlés, ils ont été décapités, ils ont été torturés, ils sont mangés par les lions. Il dit pas ça, il dit heureux. Pourquoi heureux? Parce qu'il y a une victoire, parce qu'il y a un triomphe et parce que l'agneau, parce qu'il est question ici de ceux qui sont avec l'agneau, parce qu'ils ont cette communion et cette victoire, donc cet évangile éternel, cette bonne nouvelle de victoire éternelle. Verset 14. Oula, qu'on avance vite. On va aller vite là. Je regardais, je voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Est-ce que c'est Jésus? Certains disent oui, d'autres disent non. Certains disent, bon, quand il est question de fils d'homme, souvent ça fait référence à Jésus, il a quand même une couronne sur la tête, hein? Bon. Et un autre ange sortit du temple criant une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Et il y en a qui disent, ben, c'est ça le problème. Si c'est Jésus, comment ça se fait qu'il y a un autre ange qui vient lui dire ce qu'il doit faire? Toujours des gens pour se poser des questions. Je ne sais pas si vous êtes posé toutes ces questions-là lorsque vous lisez l'Apocalypse. Mais d'autres vont dire, non, non, mais c'est Jésus pareil. Mais l'autre ange, il ne vient pas donner un ordre à Jésus, mais il vient dire que c'est le temps. Le Père lui a dit que c'était le temps. Et donc, de toute façon, c'est le Père qui connaît les temps. Hein, Jésus dit lui-même, personne ne sait ni le jour ni l'heure, sinon le Père. Et donc ici, l'autre ange vient plutôt relayer l'ordre du Père. Alors, et puis bon, maintenant, comment ça marche la communication au ciel? On est mal placé pour dire que ça marche de telle ou telle manière. En tout cas, certains vont y voir Jésus, et pourquoi pas, et ce serait, il y a une certaine logique là derrière, mais ça ne veut pas dire que Jésus est sous l'autorité d'un certain ange ici, mais que l'ange en question est plutôt le relais de l'autorité du Père. D'autres, pour simplifier ou parce qu'ils auraient peur de cette difficulté d'interprétation, eh bien, vont dire que ce n'est pas Jésus, et pourquoi pas, ça pourrait être un ange, de toute façon, c'est ce qui est accompli ici qui compte. Mais par rapport à la suite, puisqu'il est question de moisson, on voit quand même dans l'Évangile, et quand Jésus parle de moisson, il fait souvent référence à lui-même comme étant celui qui va venir moissonner. Donc il est dit, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, et ayant lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, et les raisins de la terre sont mûrs, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. On a deux événements ici, une moisson et une vendange. Certains vont dire qu'il s'agit de la même chose, mais expliqué avec des mots différents. D'autres vont dire c'est pas la même chose. La moisson concerne les bons, si on peut dire les choses ainsi, où les champs sont blancs, la moisson est mûre, et ici, quelque part, on vient moissonner pour quand Jésus parle de moisson, souvent, c'est pour différencier le blé de la paille, et donc aller chercher ce qui est bon et l'engranger dans les greniers. Et donc ici, la moisson serait, eh bien, ce bon, et la vendange, c'est pour ben, les mauvais. Sachant que juste avant, il est question de ceux qui ont la marque de la bête et de ceux qui ont le nom de Jésus. Donc on a aussi ces deux entités-là. Et ici, on aurait donc la moisson et la vendange. Et on comprend qu'ici, on est à la toute fin. Et quand il est question de cette vendange, on voit que le sang ici fait référence vraiment à un carnage, si on peut dire ainsi, parce que quand même, 1600 stades, ça représente toute une distance. Certains vont dire, ben, ça représente quasiment la superficie de la Palestine, c'est-à-dire de Dan à Beersheba. D'autres vont dire, bon, ben, ça fait référence à Zacharie, chapitre 14. Si vous vous souvenez de Zacharie, chapitre 14, c'est la bataille finale, si on peut dire les choses ainsi, qui fait référence à cette bataille d'Armageddon qu'on trouve un peu plus loin dans l'Apocalypse. Alors, au chapitre 16, verset 16, il est question de Armageddon. Et ici, dans Zacharie 14, 14, il est dit: Judas combattra aussi dans Jérusalem Et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements et un très grand nombre. Je continue. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les anneaux, les ânes et toutes bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront, toutes les nations venues contre Jérusalem, montreront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille. Est-ce que je suis dans le bon passage? Attendez. Je vous ai dit. C'est ça. Zacharie, j'étais au verset 14, c'est verset 1er. Zacharie 14, 1, excusez-moi. Voici le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc on voit une bataille où toutes les nations sont contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Donc on voit ici qu'il y a une bataille où il y a le monde entier contre Israël. Et c'est ce que Apocalypse 16, 16 appelle donc cette bataille d'Armageddon, où on voit qu'ici il y a quand même énormément de morts et puis de sang qui est sur toute cette surface. Maintenant, 1600 stades, ça fait beaucoup. Et pour ceux qui sont bons en maths, ils disent, mais 1600, c'est pas un chiffre au hasard, ça. Et oui, c'est ça à peu près. Ben, la Palestine, c'est ça. Mais 1600, ben, 1600 stades, est-ce que c'est juste une longueur ou est-ce que c'est une superficie? Parce que 1600, ça représente quoi? 1600, c'est 40 au carré. 40 par 40. C'est ça? Et 40, ce n'est pas un chiffre. Les stades, oui. Mais ça fait 1600 stades. Oui, après, il faut parler en mètres. Mais 1600 stades, le fait que ce soit un 40 au carré, c'est une superficie de 40 par 40. Ça veut dire que ça, 1600 stades, c'est du 40 par 40. Puis 40, c'est l'épreuve, c'est la douleur, c'est tout ça aussi. Et donc, on voit que ce n'est pas un chiffre ici qui est forcément un chiffre exact au niveau topographique, mais qui a certainement une forte valeur symbolique derrière ce chiffre-là. On fait le chapitre 15 assez vite parce qu'on avait dit qu'on ferait 14 et 15 ce soir. Chapitre 15, il est dit, je vis dans le ciel, puis je vis dans le ciel. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il est dit, je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc on a sept fléaux ici, les derniers, ça va être ce qui va s'appeler les sept coupes. Et ces sept fléaux, si on compare le début, il est dit il y avait un grand signe, un autre signe qui est grand, qui est admirable. Et si on lit Apocalypse 12:1, on avait exactement le même vocabulaire. Il est dit, Apocalypse chapitre 12, verset 1, un grand signe parut dans le ciel. Hein? Un autre signe encore dans le ciel. Et voici un grand dragon. Donc, on voit qu'on a le même vocabulaire qui est utilisé ici pour annoncer qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Verset 2, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc on voit qu'ici, on est comme dans un contexte où on est après la bataille, puisque on voit que ceux qui ont vaincu. Alors c'est pour ça qu'au niveau de la chronologie, il faut faire attention parce qu'on est là, puis après on va revenir en arrière. Et verset 3, ils chantaient le cantique de Moïse. Alors c'est quoi le cantique de Moïse? Certains vont dire, bon, ça rappelle un petit peu ce que dans la synagogue, à chaque sabbat, on chante. Et les Juifs chantent un peu le cantique de Moïse. Et le cantique de Moïse fait référence évidemment à l'Exode et à cette délivrance. Le peuple était esclave. Il y a eu les plaies d'Égypte. Et on se souvient quand on a lu les trompettes qu'il y avait un parallélisme avec les plaies et que les fléaux qu'il y avait pour chaque trompette eh bien, ressemblaient et peuvent être mis en parallèle avec les 10 plaies d'Égypte. Mais qu'au bout de ces 10 plaies d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? C'est une victoire, c'est une délivrance, c'est un affranchissement. Et là, de la même manière, eh bien, il y a des plaies, il y a des fléaux, mais au bout du compte, il y a un cantique, et c'est le cantique de Moïse, à savoir, eh bien, qu'ils ont été délivrés à main forte et à bras étendus, que s'il y a eu des temps difficiles, que même s'il y a eu un temps au désert, que s'il y a eu toutes ces choses, eh bien, Dieu est celui qui les a secourus, qui les a délivrés. Et donc, ça rappelle cela et c'est mis évidemment en parallèle avec l'agneau. On sait évidemment que tout a commencé à la Pâque et la Pâque juive, ben, c'est aussi la célébration de ce sang qui a été mis sous les linteaux des portes et de cet agneau innocent qui a été donc sacrifié pour le salut eh bien des premiers-nés. Alors, il chantait un cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Je crois qu'on a lu ça ce matin, hein. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le tabernacle du témoignage, c'est peut-être une expression un peu nouvelle dans l'Apocalypse, quoique c'est nouveau peut-être pour nous, mais pour les Juifs qui avaient l'habitude de lire l'Ancien Testament en grec, c'est-à-dire dans la traduction de la Septante, eh bien c'est une expression qui existait déjà dans la traduction de la Septante, le tabernacle du témoignage, mais que nous on a dans notre Bible sous le nom la tente de la rencontre. Donc la tente de la rencontre de l'hébreu, hein, nous ça a été traduit par la tente de la rencontre, eh bien a été traduit dans la Septante par le témoignage, le tabernacle du témoignage. Donc c'est ce vocabulaire-là, donc qui reprend évidemment cette tente où Moïse rencontrait Dieu. Donc ce tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux, et on va en parler la prochaine fois, donc c'est ces sept coupes, sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants, donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a les fléaux, il y a toujours les êtres vivants qui sont là, hein, ils étaient déjà là au niveau des trompettes, les quatre êtres vivants. Eh bien, l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu, ça rappelle Ésaïe. Et sa puissance et sa personne ne pouvaient entrer, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Et pour conclure, on peut peut-être juste rester sur ce point en disant, mais il y a quelque chose qui peut nous paraître paradoxal, c'est le fait qu'il est question ici de la colère de Dieu. Et certains, et même aujourd'hui encore, vont dire, mais comment un Dieu d'amour, comment le Dieu du Nouveau Testament, comment le Dieu qui a tant aimé le monde, comment le Dieu qui a fait tellement de belles et de grandes choses et qui veut manifester un amour, eh bien, pour sa créature et nous appeler ses enfants, voyez de quel amour le Père nous a tant aimés, comment ce Dieu d'amour, celui qui est amour, pourrait-il avoir une colère de la sorte? Et quand on parle de la colère de Dieu, on a là ici comme une tension. Et cette tension existe depuis très longtemps, mais provient essentiellement de la philosophie grecque, parce que déjà chez les Grecs, la colère n'était pas compatible avec l'amour. Et donc c'était comme une opposition, et on ne pouvait pas à la fois aimer et avoir une colère. Et donc l'héritage, parce qu'on est quand même dans une culture bien influencée par la pensée grecque, hein, et les philosophes, eh bien on arrive nous aussi dans cette même perception de négativité par rapport à la colère, en disant comment la colère, comment un Dieu d'amour pourrait-il être en colère? Et aujourd'hui encore, des fois, ceux qui connaissent mal la Bible, eh bien, vont dire comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait-il envoyer du monde en enfer? Ou comment un Dieu d'amour pourrait-il exprimer sa colère de la sorte? Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ces questions. Et certains vont dire, mais il y a tellement de passages où il est question de l'amour de Dieu dans Ésaïe chapitre 48, verset 9, par exemple. Ésaïe chapitre 48, verset 9. J'en prends juste quelques-uns comme ça. Hein. Évidemment, on va pas tous les faire. Ésaïe 48, 9, où il est dit, À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc Dieu dit qu'il y a une colère, mais à cause de son amour, il contient cette colère. Il suspend sa colère. Donc la colère ici n'est pas le contraire de l'amour puisqu'il dit avoir les deux. Il a à la fois la colère et à la fois l'amour. Et l'amour amène à suspendre la colère. Dans Nombre, chapitre 14, verset 18. Nombre, chapitre 14, verset 18. Vous avez trouvé? Il est dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Il est, je ne vais pas rentrer sur ces détails-là parce que ce serait trop long, mais il faut aussi pas mal comprendre ce verset-là. Mais en tout cas, il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère. Mais cette colère va venir pas d'une manière inattendue, pas par surprise, mais il est lent à la colère. Et donc, il est ce Dieu miséricordieux, lent à la colère, mais néanmoins, qui ne tiendra pas le coupable, qui ne tiendra pas le coupable pour innocent. Et le coupable aura des comptes à rendre. Peut-être un dernier, je retourne dans Ésaïe, chapitre 26, verset 10. Ésaïe, chapitre 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Et le prophète dit de la part de Dieu, si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Et dans ce sens-là, ça veut dire que celui qui a des comptes à rendre devra rendre des comptes. Mais Dieu est amour. Et quelque part, alors là, ça semble peut-être paradoxal, mais ça vaut la peine d'y réfléchir, je vous soumets l'idée que la colère de Dieu, c'est l'expression de son amour. Et c'est justement parce qu'il nous aime qu'il y a cette colère. Et on peut le comprendre nous-mêmes dans notre cellule familiale. Il peut y avoir des parents qui se mettent en colère pour rien, et puis c'est une mauvaise colère, mais il peut y avoir des parents qui ont une colère parce qu'ils aiment leurs enfants. Et que ne pas manifester de colère dans certains cas, c'est faire preuve d'indifférence ou parce qu'ils n'aiment pas leur enfant. Quand leur enfant est en train d'emprunter un mauvais chemin, et de dire « Oh, c'est pas grave, je l'aime, il fait bien ce qu'il veut. » Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou celui qui va être en rage en disant « Mais je ne veux pas qu'il prenne ce chemin-là. Je ne suis pas indifférent, je ne veux pas laisser faire et qu'il y ait une émotion, une rage contre la situation. » C'est normal. Mais en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas simplement une colère par rapport à la situation, mais c'est une colère qui est pédagogique et qui n'a pas pour but d'anéantir et de détruire, mais qui a pour but justement de ramener, de sauver, afin que celui qui réalise que la colère de Dieu est sur lui, cherche la paix et se réconcilie avec Dieu. Et celui qui ne voit pas la colère de Dieu sur lui, ne comprendra pas la nécessité d'une réconciliation. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec quelqu'un qui n'est pas en colère contre nous? Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec quelqu'un qui n'a pas de problème avec nous? Et justement, le principe de la colère de Dieu, c'est d'amener le méchant, si on veut, je reprends cette expression, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il périsse, mais qu'il se repente, qu'il revienne de sa mauvaise voie. Et la colère a pour but d'amener le méchant, d'amener celui qui est sur une mauvaise voie à reprendre le bon chemin et à prendre un chemin de repentance, d'humiliation, d'humilité et de foi et de grâce. Et donc la colère de Dieu n'a pas pour but la perdition, mais la colère de Dieu a pour but le salut. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Si Dieu envoie un message par son prophète à la ville de Ninive en disant cette ville sera détruite, on pourrait dire, mais quel message de colère et de destruction? Mais ce message-là n'avait pas pour but de détruire la ville, mais de la sauver. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Et Jonas l'avait compris, puisqu'il dit, c'est ce que je voulais éviter. Et Jonas a compris que si Dieu veut dire à cette ville, je vais vous détruire, c'est pour que cette ville réagisse, prenne le sac et la cendre, et de dire, waouh, on est allé trop loin, et demander pardon, chercher la face de Dieu, et finalement être sauvé. Donc l'annonce de la colère et de la destruction de la ville de Ninive a été un salut pour cette ville, et la ville n'a pas été détruite. Et de la même manière, la colère de Dieu est une expression de son amour, dans le sens où cette colère a pour but, eh bien, de ramener. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne revient pas? Il reste sous la colère de Dieu, parce que Dieu reste juste. Vous me suivez? Mais cette colère n'a pas pour but de détruire, mais de sauver. C'est par amour que Dieu manifeste sa colère. Ça paraît peut-être, vous allez y réfléchir, ça paraît peut-être paradoxal, mais c'est pourtant comme ça qu'il faut l'envisager. Et dans l'Apocalypse, on voit que même si, il y a des fléaux, et de la même manière au niveau des fléaux en Égypte, même s'il y a des fléaux, même s'il y a des catastrophes, même s'il y a des drames, eh bien, le but, c'est le salut. Et que, il protège son Église, il protège les siens, mais qu'il y a toujours une porte ouverte pour celui qui veut changer de voie. Une porte ouverte jusqu'au moment où ce sera trop tard. Là, on pourrait faire référence à l'histoire de Noé, où Noé n'a pas simplement construit une arche, mais l'apôtre Pierre nous dit qu'il était un prédicateur de la justice. Donc un message a été prêché. Prédicateur de justice. Un message a été prêché. Un message qui annonce la destruction, mais qui laisse une porte ouverte à un salut. Mais à un moment donné, quand la porte est fermée, ben c'est trop tard. Et c'est ce qui se passe ici en ce qui concerne la colère de Dieu. Donc s'il est question des coupes, ce sont les coupes de la colère de Dieu, mais qui ont un but avant tout de salut. Avant d'être une destruction. Quand des parents corrigent leurs enfants, je ne sais pas s'il y en a qui sont pour ou contre la correction physique, mais j'ose croire que ceux qui pratiquent la correction physique, s'ils ont le droit, mais je pense qu'au Canada, on a le droit encore, ce n'est pas interdit par la loi, même si peut-être, non, ben, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de texte en tout cas passé, mais l'idée est là. Mais en tout cas, j'ose croire que quand un père, une mère donne une correction à son enfant, c'est pas pour l'anéantir, le faire mourir et pour dire je veux te voir mort. Ça dépend à quel degré. Mais néanmoins, ça a un but pédagogique évidemment, si c'est fait sous la rage et qu'il n'y a pas de contrôle, mais Dieu n'est pas dans ce mode de colère. Dieu n'est pas un Dieu qui se met en colère. Dans une colère incontrôlée et injuste, mais sa colère est juste et contrôlée. Et c'est ça qui fait toute la différence avec la colère des hommes, où la colère des hommes, des fois, est injuste et pas contrôlée, et qui va même au-delà, des fois, de ce qu'on voudrait. Mais avec Dieu, c'est jamais le cas. Et non seulement sa colère est juste et contrôlée, mais elle est lente à venir, et elle vient pas par surprise, et il y a des avertissements, premier, deuxième, troisième, quatrième, et après. Tant qu'il faut, mais avec toujours un but pédagogique derrière tout ça. On va arrêter là pour ce soir et on ira avec les coupes de la colère de Dieu. On va replonger un peu dans quelques coupes hein, pour après remonter dans une autre bouffée d'oxygène avec une doxologie à la gloire de Dieu à la fin de cet apocalypse. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à comprendre ta parole et à ne pas t'imaginer tel que tu n'es pas, mais à comprendre ton amour et à comprendre ce que tu fais. et à réaliser que tu nous aimes et que c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour notre bien. Et en tout cas, de voir que ça fait tellement de bien de voir, même dans ces passages où il y a des choses difficiles, de voir que tu protèges ton Église, que tu protèges ceux qui ont ton nom et le nom de ton Père inscrit sur leur front, de ceux qui marchent avec toi. Tu les protèges, tu les gardes et ils peuvent même être heureux. Et quand bien même ils mourraient en toi, ils sont heureux parce qu'il y a une victoire éternelle qui leur est assurée. Nous bénissons Seigneur pour ces visions qu'on peut voir dans l'Apocalypse. S'il y a des choses terribles, nous savons qu'en toi, nous sommes préservés de ces choses et qu'il y a une issue qui est bonne et que nous sommes vainqueurs avec toi. Seigneur, donne-nous de ne pas nous entêter comme certains peuvent le faire, de ne pas être de ceux qui adorent la bête, mais nous voulons être du bon camp. Et nous prions pour ceux qui sont rebelles, afin qu'au travers peut-être de la pression et des choses difficiles qui peuvent leur arriver, eh bien, ils puissent comprendre que c'est toi qui les appelles à changer de voie, à se repentir et à venir à toi. À toi soit toute la gloire pour les choses que tu as faites et celles que tu vas faire encore en ton nom. Amen.